Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec la reprise des interviews et notre premier interviewé pour cette rentrée 2020-2021, c'est Brice Pellerin, le fondateur de Feta Fitness. Donc aujourd'hui, on va clairement parler bien-être, on va parler d'alimentation, on va parler de sport pour les entrepreneurs. On va parler d'une manière générale de la question de la priorité chez les entrepreneurs. Tu vas sûrement te retrouver là-dedans entre la priorité mon business, mais en même temps mon bien-être, comment je peux concilier tout ça, etc. Donc tu verras dans le sommaire qui est associé à cet épisode, tu vas retrouver les questions avec les timers en fait si tu veux, pas forcément écouter l'épisode en entier mais que tu veux écouter juste ce qui t'intéresse, certaines questions et certaines réponses. Donc tu peux retrouver tout ça. Tu peux retrouver Brice sur son site Feta Fitness, je te mets là aussi les liens dans la barre d'infos. Et voilà, j'étais vraiment contente qu'on vienne évidemment parler de ça, puisque comme tu le sais, eh ben bien dans ta boîte, c'est du bien-être au travail pour les entrepreneurs. C'est vraiment cette idée que on n'est pas obligé de choisir en fait. On n'est pas obligé d'être que dans le bien-être et d'avoir un business qui tourne pas, ou d'avoir un business qui est hyper rentable et du coup d'être de vraiment faire passer sa santé à la trappe. Je crois très très fort au fait qu'on peut tout lié, mais effectivement c'est des questions que je vais poser à Brice pendant le podcast. Comment on peut faire quand on a un entrepreneur débordé pour changer ses habitudes alimentaires et sportives? Comment on peut concilier tout ça? Et si tu es un ou une habitué de bien dans ta boîte, t'as déjà, je pense, accumulé beaucoup d'infos sur la partie plutôt mindset dont moi je m'occupe, que ce soit via le yoga ou via la psy positive ou le mindset en général. Donc je trouve que l'approche de Brice va être très très complémentaire à tout ce dont on a déjà parlé dans Bien dans ta boîte, et on va continuer évidemment. Avant que je te laisse avec l'épisode, je te rappelle de venir nous rejoindre sur le groupe privé Facebook. À l'heure où je te parle, on est 615 à peu près entrepreneurs à s'entraider et à co-construire nos réussites. Donc tu peux nous rejoindre, le lien est dans la description, et je t'invite surtout à rejoindre la newsletter. Pourquoi ? Parce que déjà, elle est super. on va pas tourner autour du pot. Non mais sérieusement, je l'envoie que deux fois par mois, le mardi. Il y a un mini article par newsletter, et en fait, je te dis ça parce que si tu rejoins le groupe Facebook, sur le groupe il y a beaucoup de choses, je fais souvent des immersions, je fais un live tous les mois, etc. Et t'es pas forcément notifié en fait par l'algorithme de Facebook, parce que les lois de Facebook sont impénétrables. Donc si tu es abonné à la newsletter, au moins tu es sûr que toutes les deux semaines tu reçois ta newsletter, tu as les infos, tu as les lives, etc. Et tu ne loupes rien. Sur ce, je vais pas monopoliser la parole plus longtemps, je te laisse écoutez notre interview avec Brice. Bonjour Brice, merci de nous rejoindre dans le podcast de Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on va parler d'un esprit sain dans un corps sain, on va parler d'alimentation, on va parler de sport. Donc je suis très contente que tu sois là dans le podcast pour parler de ces sujets qui sont hyper importants selon moi dans le bien-être au travail des entrepreneurs et dont on parle pas beaucoup. Donc, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, toi, ton activité et ton parcours pour nos auditeurs et auditrices?
Avec plaisir, merci en tout cas Laura de me recevoir sur ton podcast. Alors, je m'appelle Brice Pellerin, j'ai bientôt, très bientôt 30 ans, puisque je suis né le 10 septembre 90, je vous le dis, voilà.
Que vous me je dis ça comme ça.
je suis coach bien-être en ligne et spécialisé dans la perte de poids. Aujourd'hui, de plus en plus spécialisé dans la perte de poids pour les femmes également. J'aide du coup les personnes à perdre du poids durablement sans faire de régime, ni mettre un pied à la salle de sport, ni faire du sport intensif à la maison. Et ni prendre de pilules magiques, hein, pas de choses comme ça. C'est vraiment du coaching en conditions réelles que j'essaie de faire pour vraiment éviter le yo-yo et les frustrations.
Et justement, pourquoi faire le choix de se focaliser sur les femmes ?
En fait, au départ, j'ai commencé donc en 2018 avec une réflexion plutôt en fitness. Bon, ça, on y reviendra peut-être un petit peu après, mais j'ai pris le parti de vouloir cibler les entrepreneurs au départ parce que je me considérais plus entrepreneur que fitness coach ou quelque chose comme ça. Et donc, je me disais que ça me parlait plus et que j'allais plus comprendre en fait leurs problématiques. Mais finalement, bon, oui, je comprends mieux leurs problématiques, mais je comprends aussi que Leur priorité, c'est souvent pas de faire du sport ou leur alimentation, même si ils y pensent. En fait, ça m'est venu d'un de mes clients qui m'a dit, ma priorité numéro un, ça sera jamais l'alimentation, jamais le sport, ça sera toujours mon business. Et j'ai voulu persévérer un petit peu là-dedans, et finalement, en fait, j'avais du mal à avoir un revenu plutôt constant en ciblant uniquement des entrepreneurs. Donc, j'ai décidé de m'orienter vers les femmes parce que dans mon audience, j'ai de plus en plus de femmes, et je trouve que mon approche, elle correspond bien à un public féminin, parce que souvent, quand on veut perdre du poids, les femmes, elles s'intéressent beaucoup à l'alimentation, à la relation avec la nourriture, tout ce qui est gestion émotionnelle, alors que les hommes ont tendance plutôt à aller vers quelque chose de plus hard et de se dire, moi, si je veux perdre du poids, je veux faire du sport, et c'est tout. Ça, caricaturer, mais en gros, c'est ça.
Et c'est intéressant ce que tu dis sur les entrepreneurs côté bien-être. Je peux avoir aussi un peu de ça. Où il y a une certaine, alors moi je suis plus sur la partie mindset, donc c'est différent, mais où peut y avoir un truc, par exemple je le vois dans le yoga, où les entrepreneurs sont paradoxalement hyper stressés, ils travaillent beaucoup, ils prennent pas forcément hyper soin de leur bien-être et de leur santé, parce que comme tu dis, la priorité c'est lancer la boîte, puis faire tourner la boîte, puis mettre la boîte en croissance, etc. Et paradoxalement, il y a un besoin chez eux aussi de prendre soin de leur bien-être. C'est souvent des gens qui sont très stressés, qui travaillent beaucoup, et comment toi tu... T'as fait de la pédagogie, j'imagine, pendant un moment. Comment t'as expliqué ce truc de, bah ouais, je comprends que votre business c'est important, mais en même temps, si vous êtes pas en bonne santé et que vous êtes pas bien, bah.
Ça va pas fonctionner,
ouais.
Ouais, j'ai essayé. Et effectivement, en fait, je crois qu'ils ont cette conscience, ils ont pris. Je pense qu'on prend de plus en plus conscience de notre corps et qu'il faut faire vraiment attention à notre alimentation. Ça vient aussi, je pense, de la tendance aux États-Unis. Eux, ça fait longtemps qu'ils font ça et que c'est valorisé chez les entrepreneurs. Donc, ils ont cette conscience-là. Et moi, j'avais un discours qui était, en fait, initialement, on se dit, pour être efficace, pour être productif, on veut absolument focaliser sur le temps, comment on gère notre temps. Toujours, on est toujours à la recherche du moindre hack de productivité. Quand on est entrepreneur, on se dit, on n'a pas le temps, de toute façon, je suis sous l'eau, etc. Et moi, je disais, oui, c'est intéressant. C'est effectivement pour regarder la gestion de son temps. Mais finalement, si tu gagnes du temps et que tu n'as aucune énergie, à quoi ça te sert, en
fait? C'est clair. Hein.
Donc, effectivement, il faut que tu te focalises aussi sur ton énergie. Et comment tu fais pour avoir plus d'énergie au quotidien? Bah, tu vas peut-être faire du yoga, tu vas peut-être faire attention à ton alimentation, tu vas faire attention à ton sommeil. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, qui sont, ce que je disais, en fait, cultiver son bien-être. Donc, beaucoup de... plusieurs pans, en fait, le sommeil, l'alimentation, le sport, le mouvement, beaucoup de choses comme ça qui sont très importants pour justement réussir à être développer assez d'énergie pour être efficace derrière, quoi.
Clairement. Et alors justement, puisqu'on parle de ça, est-ce que tu pourrais nous expliquer, selon toi, en quoi l'alimentation, elle joue un rôle prépondérant, en fait, sur le business, en termes d'énergie, etc.
Je pense que c'est ce que j'ai commencé à dire, c'est si on mange n'importe quoi, on va expérimenter des coups de barre, des choses comme ça tout au long de la journée, et donc on va être moins efficace, et finalement ne pas prêter, enfin pour moi, être débordé, c'est pas une excuse pour être en mauvaise santé, tu vois. C'est justement l'inverse. Plus t'es plus t'es demandé, plus t'as de choses à faire, et plus il faut que t'aies une alimentation qui soit propre, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui soit de plus en plus de qualité, qui soit un peu plus réfléchi que des choix qui soient négligés au jour le jour parce que t'as pas le temps. Il faut vraiment que tu prennes conscience que ton alimentation, c'est ton moteur, enfin c'est ton essence, si tu veux. Et je sais, je me perds un petit peu dans ce que je voulais dire, mais c'est vraiment important. Je sais plus où est-ce que je voulais aller avec ça. C'était quoi ta question initiale?
La question, c'était comment est-ce que tu peux nous, est-ce que tu peux nous expliquer en quel point et comment concrètement l'alimentation, ça joue un rôle prépondérant dans mon business, quoi.
Quand on a plein de décisions à prendre, justement, il y a une certaine fatigue, on appelle ça decision fatigue qui se crée. Et plus on a des bonnes habitudes saines autour de l'alimentation, du sport, plus on va, enfin, moins on va avoir besoin de prendre en compte nos cerveaux, non, de puiser dans les énergies, dans notre énergie pour prendre ces décisions-là. Et finalement, on a plus d'énergie mentale pour faire ce qu'on a à faire sur notre business. Donc ça, c'est aussi important d'automatiser un petit peu cette alimentation saine aussi pour avoir un peu plus d'énergie et avoir aussi de l'énergie disponible pour être sur son business. Et de l'autre côté, évidemment, quand on mange bien, on se sent mieux, on a beaucoup plus d'énergie au quotidien, on dort mieux aussi. Ça, c'est aussi une chose très importante. Si on dort mal, après, on est plus fatigué, donc on mange plus, et on a tendance à manger n'importe quoi, donc on est encore plus fatigué. Alors, je crois que c'est un cercle vicieux et un cercle vertueux. Soit on fait pas attention, et donc on est fatigué, on mange n'importe quoi, on va avoir des coups de barre, mais en fait, pour la plupart d'entre nous, ces coups de barre et ces choses-là, en fait, ça devient normal dans notre quotidien d'entrepreneur. Et c'est un peu ça le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est comme ça, qu'il faut travailler à fond, et même si on est fatigué, etc., et pas écouter son corps. Alors que, en fait, si on faisait vraiment l'inverse, si on prêtait attention à son alimentation, à son mouvement aussi, on aurait plus d'énergie plus facilement, et on dirait, ça serait un peu le moins mais mieux, quoi.
Je trouve que c'est super important ce que tu dis, c'est un peu le message de toute façon qu'on va faire passer sur Bien dans ta boîte, mais le fait de se dire, même si t'es débordé et que en ce moment t'as plein de demandes et machin, que ton business tourne et tout, c'est super, mais le bien-être il est pas secondaire, quoi. Et ça, je trouve ça hyper important, parce que souvent, je le vois d'ailleurs en coaching, mais les entrepreneurs, il y a un moment de leur process où je les perds. Généralement, c'est le moment où la boîte monte en croissance et où je cite, ils ont pas le temps, ils sont blindés, etc. Et où du coup, ils s'occupent plus du tout en fait de leur bien-être, parce que effectivement, comme tu disais, ils vont être focalisés sur la partie business. Et je trouve ça super intéressant ce que tu dis, et important de le rappeler que c'est un peu l'inverse en fait. C'est que c'est peut-être encore plus dans ces moments-là justement que prendre soin de ton alimentation, de ton sommeil, bon, du sport, on va en parler après, la partie psy, etc. C'est hyper important, alors qu'on le voit toujours comme un truc secondaire, en mode. Je vais d'abord rentrer du pognon, je vais faire du chiffre d'affaires, et ensuite, quand il me restera 2 minutes, j'irai m'occuper de moi, quoi.
Ouais, carrément. Et ouais, je te rejoins sur ça, sur la dernière chose que tu dis, c'est genre, il y a un genre de rush, on se dit, je suis start-upper pendant 5-6 années, je donne tout, et puis finalement, après, je vais récupérer ces années-là en faisant attention à moi. Et c'était limite une niche que je commence à identifier dans... Parce que de plus en plus de personnes qui venaient voir, c'était ça en fait. Ils avaient fini leur start-up et ils voulaient justement maintenant prendre soin d'eux, parce que ils se sont dit, maintenant que j'ai fini mes conneries, je peux prendre soin de moi. Mais t'as raison, hein, sur le fait où il faut toujours essayer d'avoir en arrière-plan en fait cette idée de bonne alimentation, de faire les bons choix. Moi, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien avec mes clients et mes clientes. C'est par exemple à cet été. J'ai lancé un programme de coaching de groupe. Évidemment, c'est pas la période idéale, parce qu'on va être en été, on va sortir, on va partir en vacances, des choses comme ça. Donc en fait, ça, je pense que ça renvoie à la mentalité qu'on a, la mentalité des régimes, la mentalité du tout ou rien. Et je pense qu'il faut adopter un growth mindset, si j'essaie de parler anglais, d'avoir une mentalité de développement. Et de se dire, en fait, malgré les circonstances qu'on va avoir, enfin, peu importe les circonstances, il va falloir qu'on fasse quelque chose. C'est pas tout ou rien, c'est tout ou quelque chose. Il faut qu'on arrive à faire un minimum. En fait, moi, j'aime bien cette idée d'avoir un minimum à faire. Et dans tous les cas, les filles, par exemple, qui sont parties en vacances, toutes les filles que j'ai coachées sont parties en vacances, elles ont peut-être pas perdu du poids sur cette période-là, mais en tout cas, elles ont limité les dégâts, entre guillemets. Elles auraient peut-être fait plus de 2 kilos. Là, elles ont fait 0 kilos en plus, ou peut-être moins 1. Peu importe, mais elles ont fait des meilleurs choix, en fait, et c'est ça, en fait, qu'il faut cultiver, c'est la régularité avec laquelle tu vas faire les bons choix pour que ça devienne de plus en plus automatique et que tu arrives, en fait, à tes objectifs. Donc, c'est pour ça que j'aime dire aussi que je coach en conditions réelles, c'est que peu importe ce que tu as, peu importe les cartes que tu as en main, on va faire avec et on va faire au mieux, en fait.
Et tu vois, ça me fait beaucoup penser, parce que comme, enfin, toi, je crois que tu le sais, je vais le répéter pour nos auditeurs, auditrices, j'avais fait un BTS diététique, donc de diététique occidentale, quoi. Maintenant, je suis plus branchée diététique chinoise, et je trouve que l'approche que tu as, ou que la diététique occidentale commence à prendre, je sais pas si c'est un mouvement général, mais se rapproche un peu d'une vision de diététique chinoise, où moi, j'entends mon formateur toujours dire en diététique chinoise, Il y a rien qui est bon, il y a rien qui est mauvais, il y a que des excès, quoi. Et que du coup, rentrer dans un truc de se dire, ok, c'est le mois de mai, donc pendant mai-juin, je vais avaler un concombre par jour, et après, comme ça, pendant juillet-août, je peux m'enfiler des mojitos et compagnie, c'est pas très logique d'un point de vue du fonctionnement biologique, énergétique, etc. Et du coup, je trouve ça plus sensé, comme tu dis, de faire ça en conditions réelles, comme tu dis, et de se dire, ok, est-ce que au quotidien, je peux accumuler un quota de bons choix, ce qui ne veut pas dire de faire toujours le bon choix et d'être en fonctionnement maximal tout le temps, mais voilà, de se dire, bah, est-ce que je peux accumuler des petits bons choix au quotidien plutôt que de tout faire au maximum pendant 2 mois pour après tout relâcher pendant 6, quoi.
Ouais, carrément, mais c'est oui, je sais pas en plus si ça vient de plus en plus comme ça, mais moi c'est mes influences plutôt de coaching américain qui m'ont fait me tourner vers ça depuis quelques années, enfin depuis que je m'intéresse de plus en plus à la nutrition, au changement. En fait, je me suis beaucoup interrogé sur le changement et aux États-Unis, ils commencent à avoir comme une appellation pour dire t'es un change maker. Et moi, je pense que je suis plutôt change maker que quelqu'un qui accompagne la nutrition ou des choses comme ça. Mm-hmm. C'est vraiment accompagner au changement parce que on peut savoir. Enfin, la majorité des personnes que j'accompagne, elles savent ce qu'elles doivent faire. Elles ont conscience qu'elles font des excès, etc. Et t'as beau leur donner un plan de vol, je sais pas, à respecter. Elles vont le faire, mais finalement, sans vraiment comprendre ce que tu fais. Et donc, quelques mois plus tard, bah, c'est quoi ? Tu reviens à tes mauvaises habitudes, et, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut, comme toi, tu fais de la psychologie positive. Je pense que tout ça, ça se rejoint. C'est la psychologie aussi du comportement, du changement. Essayer de changer progressivement et de valoriser vraiment le progrès et ne pas aller vers la perfection. Et voilà, de faire toujours un peu mieux. Sans pour autant se mettre la pression et culpabiliser quand on fait un excès. C'est compliqué au départ quand on a une logique de perfectionniste, et moi le premier, j'étais vraiment perfectionniste avant, mais ça se travaille, et évidemment, c'est encore, on rejoint le mindset de développement, et c'est une grosse question de mindset au départ toujours.
Tu me fais une transition royale pour ma question suivante, qui était justement, est-ce que tu as des conseils à donner à nos entrepreneurs qui, comme on l'a dit, sont débordés et focus sur leur business pour mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires ?
Oui, moi j'ai toujours des conseils, mais ouais. Qu'est-ce que je pourrais donner ? En fait, quand on est débordé, dans tous les cas, faut, comme je disais, il ne faut pas tout changer tout d'un seul coup, sinon on va pas tenir la chose. On va dire qu'il y a 3-4% des personnes qui vont tenir, et c'est celles qu'on va retrouver dans les avant-après, regardez comment je suis beau, comment j'ai réussi à faire ça. Sinon, 95% des gens n'y arrivent pas à tenir et se sentent un peu comme des merdes. Mais bon, ça, c'est pas grave. Mais du coup, finalement, moi, ce que je conseille aux gens, c'est si on veut déjà regarder l'alimentation, c'est de se dire, ok, sur 28 repas que je vais faire dans la semaine, on va dire si on fait 4, 3 repas plus un snack, 7 fois 4, 28, si je sais encore compter, on va essayer de prendre note déjà de ce qu'on fait dans la semaine pour déjà prendre conscience de ce qu'on mange, parce que ça, c'est aussi une grosse difficulté, c'est de le cerveau humain, il a tendance à vachement oublier les petites choses qu'on prend ici et là, sans... Et on a vite fait de se dire, moi je mange très bien, je comprends pas pourquoi je prends du poids, ou, etc. Souvent, ça me le fait au début du coaching, et finalement, elle se dit, ah oui, c'est vrai que je mangeais ça, etc. Donc déjà, essayer de voir ce qu'on mange sur une semaine, et de se dire, ok, bon là je pars d'ici, je pars d'un constat, je mange, je sais pas, à 50-70% du temps, je mange plutôt pas mal, mais je vois que le petit déjeuner, vraiment, il faudrait que je change ça. Donc, je commencerai par regarder le repas qui est le plus problématique. Ça peut être le petit déjeuner parce que aussi, c'est important parce que c'est le premier déjeuner et après, ça nous met un peu dans le mood de est-ce que je vais continuer à manger de la merde ou est-ce que je vais bien continuer. C'est un peu une keystone habits. Et donc, du coup, je regarderai pendant une semaine mon alimentation au petit déjeuner et j'essaierai d'améliorer mon petit déjeuner. Donc, soit, quand je dis améliorer mon petit déjeuner, si... je sais pas, je bois du jus d'orange et je mange des céréales, des mauvaises céréales, bah, je vais peut-être déjà améliorer ça en changeant les céréales par du muesli. Peut-être que je vais changer mon jus d'orange par par autre chose, mais en fait essayer de faire des petits ajustements, ce que j'appelle des meal upgrades. Ça peut être par exemple aussi le midi. Si je vais, si j'ai l'habitude d'aller à un restaurant et que je mange steak, frites et coca, bon, ça ressemble à un restaurant américain, mais si j'ai l'habitude de prendre ça, je vais déjà là, pendant une semaine essayer de changer mon coca. Je vais plus prendre du coca, je vais prendre peut-être de l'eau pétillante. Après, je vais changer mes frites par des légumes, mais tu vois, essayer de changer progressivement quelque chose dans mon assiette, mais pas tout d'un seul coup, et de se focaliser sur un seul repas par jour, et en fait, accumuler ces petites victoires du jour, et pas se surmener, submerger plutôt, j'avais overwhelming, se submerger avec tout changer dans la journée, tout changer pendant 7 jours. Donc vraiment se focaliser sur un repas, celui qui est le plus problématique, essayer d'accumuler les petites victoires, et une semaine après semaine, essayer de changer peut-être tout le petit déjeuner petit à petit, ou peut-être qu'on va aller voir le déjeuner après le dîner, etc., etc. Non, après ça, c'est pour la partie alimentation. Après, pour le sport, c'est à peu près la même chose. C'est de voir d'où est-ce qu'on part. Si on part de zéro, essayer d'incorporer un peu de mouvement tout au long de la journée. J'ai été par le passé très, très fan du HIIT, des choses comme ça, très intensif. Maintenant, je ne suis plus trop d'accord avec cette approche-là, parce que c'est un peu à l'excès. Il y a beaucoup de... Ben, si tu regardes tous les gens qui veulent te faire... Tous les coachs qui veulent te faire perdre du poids, c'est souvent avec le sport, et c'est souvent du HIIT. C'est magique, on perd trop du poids, etc. Oui, on perd des calories, mais finalement, ça peut avoir aussi des effets néfastes, parce que si on est trop dans l'excès, dans l'intensité, on va créer peut-être une inflammation chronique sur notre corps, etc. etc. Et je suis plus à me dire, il faut faire du mouvement régulièrement dans la journée, et du mouvement plutôt que du sport, parce que il faut faire quelque chose qui nous plaise. Et faire du sport pour faire du sport, ça, c'est pareil que les régimes restrictifs, ça ira jamais très loin. C'est bien si on a une préparation physique à faire, si on a un objectif derrière, mais si on veut que ça soit tenable, il faut vraiment trouver, premièrement, quelque chose qui nous plaît. Ça peut être danser. Souvent, enfin, les femmes qui veulent pas faire de sport, bah, ce que je leur propose, si elles aiment danser, en fait, déjà de faire quelques minutes de mouvement dans la journée, rien que danser, c'est déjà très bien. Et après, de remettre un peu plus de mouvement, soit si on habite à Paris, en sortant une station de métro avant, en prenant les escaliers plutôt que l'ascenseur, etc., etc. Mais essayer d'avoir plus de fréquence que simplement se dire, je vais aller 3-4 fois par semaine au sport, même si ça peut être une possibilité, mais je suis plus fan d'avoir une fréquence semi-quotidienne, enfin presque quotidienne, 5 à 7 jours sur 7, toute petite, pour créer en fait la routine, et après essayer de se régler sur des créneaux qui peuvent nous convenir. Mais la fréquence, en fait, ça crée vraiment la routine et tout ça, quoi.
Qu'est-ce que tu pourrais répondre à... Parce que j'imagine que parmi nos auditeurs, auditrices, il y en a peut-être qui sont en train de se dire « Ouais, bon, c'est mignon, mais est-ce que franchement ça va changer la donne que je prenne l'escalier ? Est-ce que franchement ça va changer la donne que je sorte une station de métro avant ?» Qu'est-ce que tu pourrais répondre peut-être à cette objection-là ?
Ah, bonne question. Bonne objection. Bah, en fait, je vais prendre un exemple. Moi, par exemple... C'est plus exactement vrai, mais on va dire que c'était vrai. C'était vrai à un moment de ma vie. À chaque fois que j'allais aux toilettes, que j'allais faire pipi, je précise, je sortais, je faisais deux pompes. Et je me retrouvais, donc ça c'était mon minimum, mais je me retrouvais plus souvent à faire 10 pompes, tu vois, finalement. Comme je vois beaucoup, je faisais quand même pas mal de pompes. Après, ça peut être des pompes, ça peut être des squats, peu importe. Et donc là, c'est à peu près la même idée. C'est-à-dire que si on fait... si on s'arrête une station de métro avant, on va marcher un peu plus, mais on va être aussi dans un meilleur mood pour se dire, bah tiens, finalement, pourquoi je prendrais pas les escaliers, pourquoi je ferais pas d'autres choses, tu vois. C'est vraiment essayer de créer cet environnement, de trouver toutes les opportunités qu'on peut avoir dans la journée pour bouger plus, et toutes ces petites victoires, de se dire, bah tiens, finalement, c'est vrai que j'ai monté ces escaliers facilement, je suis content de moi. Bref, tout ça, ça va contribuer à se mettre dans un meilleur mood pour bouger plus et pour faire autre chose. Et effectivement, on pourrait croire que toutes ces petites choses, ces petites choses insignifiantes, ça sert pas à grand chose, mais finalement, bouger régulièrement dans la journée, ça limite même plus d'effet que d'aller 2-3 fois par semaine faire un cours de sport intensif. Il y a des personnes qui vont dire, ouais, moi je suis très, très actif, je fais 3-4 fois de sport par semaine, enfin une demi-heure intensément, mais finalement elles ne bougent pas du tout de leur ordinateur de la journée. Donc elles sont sédentaires, elles pensent être actives, mais non. Donc il vaut mieux justement privilégier le mouvement, je sais pas, toutes les heures, toutes les 2 heures, 4-5 minutes, faire des choses simples, je sais pas, faire les tâches ménagères. Je voulais parler de ça parce que ça fait référence au NEAT, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, le Non-Exercice Activity Thermogenesis. Donc c'est toutes les choses qui sont non, pas de l'exercice, entre guillemets, mais qui font augmenter ta dépense calorique. Donc tout ça fait vraiment, ça change la donne, et ça vaut pour limite 15 à 20 ou 30% de tes dépenses énergétiques quotidiennes. Donc c'est vraiment pas à négliger. Et justement, c'est toutes ces petites choses additionnées qui vont faire que justement tu vas te remettre dans le mood, dans le flow, je sais pas si on dit, mais tu vas te remettre dans le bain, et tout ça additionné, ça va vraiment faire la différence.
Et comment on peut faire, la question, elle me vient en t'écoutant, parce que je pense que c'est aussi une question que peuvent avoir les entrepreneurs, c'est que pour les entrepreneurs peut-être qui vont, ou qui ont commencé à s'intéresser au sport, à l'alimentation, etc., j'imagine qu'ils vont aller sur Instagram, YouTube et compagnie, et ils vont entendre plein de choses différentes. Donc d'une, comment je fais le tri entre tout ça? Et généralement, il y a quand même une doctrine un peu dominante. En fait, je pensais à quand tu as parlé du HIIT tout à l'heure, doctrine un peu dominante qui est de dire je mange propre tout le temps, je fais un cheat meal par semaine, je vais à la muscu travailler des groupes musculaires en focus et je mets du HIIT au milieu. Et on te présente un peu ça comme si c'était sacro-sainte solution et tout. Et toi, t'as pas l'air bien d'accord avec ça, semble-t-il, mais du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens pour qu'ils arrivent à s'approprier, en fait? Parce que je veux dire, la plupart des entrepreneurs qui nous écoutent, je pense qu'ils sont pas des kinés, ni ni profs de sport, ni machin, quoi.
Bah déjà qu'ils me suivent, qu'ils m'écoutent. Non, c'est vrai que c'est pas évident. En fait, aujourd'hui, l'information, c'est pas ce qui manque. Il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de personnes qui parlent. C'est une bonne question parce que je sais pas comment y répondre, parce qu'il y a beaucoup de personnes, et comment faire pour trouver la bonne personne. Je pense qu'il faut commencer à regarder un petit peu à droite et à gauche les discours qui nous plaisent. Mais enfin, je veux pas faire celui qui sait plus que les autres, ou qui a... enfin, moi j'ai une autre approche, et je pense que j'ai déjà testé beaucoup d'approches avant, par le passé. Et en fait, je pense qu'il faut s'écarter, en tout cas, de toutes les personnes qui vont vendre des résultats miracles en 2-3 mois, et qui vont vous dire c'est faut suivre tel plan, etc. Enfin, faut manger telle ou telle chose par jour, faut faire tant de burpees, etc. Tout ça, en fait, c'est les résultats, enfin les programmes qui sont rapides, enfin de perte de poids rapide, ça n'a que des résultats rapides et non durables. Donc ça peut être une bonne chose si vous voulez faire du shooting, si vous voulez faire, si vous êtes modèle, mais pour moi, en fait, ça vaut pas la peine. Sinon, si vous êtes une personne normale, un entrepreneur qui est derrière son ordinateur, à moins de vous faire payer pour votre corps, ça sert à rien de s'infliger autant de souffrances. Donc, en règle générale, si c'est du rapide et hyper tape à l'œil, faut s'en écarter, il faut aller plutôt sur vers du long terme, même si c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on se dit, ah, ça me fait chier, pendant 6 mois, je sais que je vais pas atteindre peut-être mon objectif, ça va pas aller aussi vite que je voudrais, moi, je veux aller à la plage, être beau, etc. Ou être belle, hein, c'est la même chose. Je pense que c'est le parallèle qu'on peut faire avec l'entrepreneuriat. Si on est friand de tous les hacks, de toutes les petites choses qui vont vous faire gagner quelques followers ou des choses comme ça, finalement, on en essaye quelques-uns, et on se rend bien compte que ça fonctionne pas sur le long terme. Donc c'est la même chose avec la perte de poids, avec le bien-être. Vous aurez des résultats rapidement, mais qui seront non durables. Donc faut arriver à trouver la personne qui vous correspond, et qui peut incarner vos objectifs, quoi.
Ah, j'ai une question marketing qui débarque en plein milieu de ce podcast bien-être, mais ça intéresse vachement ton truc parce que c'est quand même, on va pas se mentir, plus facile à marketer dans une promesse de vente de dire « En 3 mois, je te promets que tu vas perdre 30 kilos, machin, vieux. » Toi, ton approche, et je la partage sur d'autres sujets que l'alimentation, mais comme on va être tous les deux dans une vision d'accompagnement, de fond, etc., est-ce que, enfin, peut-être que tu as pas rencontré ce problème-là, mais je trouve que c'est plus difficile à marketer parce que tu vas pas aller faire une promesse et dire à la personne, voilà, dans 3 mois, t'auras plus de problème. Tu vas lui dire, bah, je te propose un accompagnement de X temps et si tu y mets du tien, tu auras des résultats moins importants mais plus durables. Et même si la personne, elle peut tout à fait rationnellement comprendre que elle aura des résultats durables, machin, bah, comme tu dis, il y a un peu, dans une société où quand même tout va vite et on est obsédé par la performance, etc., il peut y avoir une tentation pour la personne de dire, en fait, je vais aller chez l'autre parce que je me fais confiance, moi, je vais arriver à durer dans le temps et au moins en 3 mois, ça ira plus vite. Donc, comment toi, tu fais pour ton marketing et ou la pédagogie autour de ça pour dire, bah, je reste fidèle à ce que je pense, même si c'est pas le truc à la mode, quoi.
C'est une très bonne question, c'est effectivement compliqué et faut être droit dans ses bottes, faut pas avoir peur d'assumer son positionnement. Et après, c'est aussi une chose qui m'a fait changer, c'est-à-dire que j'ai été vachement focus sur ça, sur les bonnes habitudes, des choses qui n'étaient pas assez concrètes par le passé et avec les entrepreneurs. Et donc ça, ils vont comprendre qu'il faut prendre des bonnes habitudes, mais c'est pas assez concret et les gens, ils ont besoin de concret. Donc effectivement, quand c'est aguicheur et tout ça, bon bah c'est beaucoup plus simple à marketer, même si de plus en plus les gens commencent à se dire bon, ces promesses là ça va pas fonctionner. Mais t'as quand même une, je sais pas, c'est un biais psychologique, mais qui nous fait être attirés par ces promesses hyper rapides. Donc c'est vraiment compliqué de marketer quelque chose d'autre, mais j'ai changé un peu mon approche en écoutant, je sais pas, c'est Antoine BM qui l'a dit, mais c'est pas que lui, mais plutôt en vendant ce que les gens veulent et en leur donnant ce dont ils ont besoin. Donc en fait, au début, moi, j'avais une approche en dire, j'ai pas envie de dire, il faut que tu perdes des kilos, tu vois, parce que perdre des kilos, ça sert à rien, quoi. Enfin, c'est parce que ce que j'apprends, c'est bien de perdre des kilos, mais si je te dis en 3 mois perdre 10 kilos, peut-être que tu auras perdu 10 kilos de muscles ou des choses comme ça. Enfin, un kilo, c'est pas quelque chose qui est hyper représentatif. Le vrai objectif derrière perdre des kilos, c'est de se sentir bien, d'être beau, etc. Donc, j'ai commencé quand même à parler de perdre du poids en mettant des kilos précis. La première fois que je l'ai fait là, pour les femmes, du coup, j'ai dit en 2 mois, perdez jusqu'à 5 kilos. Donc, je dis jusqu'à parce que je ne prenais pas de perdre 5 kilos en 2 mois. Mais tu vois, c'est très. Encore une fois, ça veut tout et rien dire. Le mec, ouais, il casse sa proposition de et ça veut tout et rien dire parce que si tu fais 90 kilos et en 2 mois, enfin, que tu fais 1m75, en 2 mois, effectivement, 5 kilos, ça paraît largement facile. Mais les femmes que j'ai accompagnées, c'était plutôt, je fais, je sais pas, 60 kilos, je vais en perdre 2-3, des kilos qui sont plus durs à perdre parce que t'as plus que 2-3 kilos à perdre. Donc, c'est une promesse marketing pour attirer, parce que je pense qu'il faut attirer les gens quand même, parce que sinon, il n'y a pas de clients. Et derrière, après, sur ma page de vente, sur les choses que je montre, en fait, on se rend bien compte que c'est pas une excuse le kilo, mais il y a vraiment d'autres choses derrière. Et quand je demande des retours à mes clients, à mes clientes, tu te rends compte que c'est pas la première chose qui revient, ou en tout cas, il y a beaucoup d'autres choses derrière. Il y a des personnes là, une personne que je suis qui a arrêté les antidépresseurs, qui a un meilleur sommeil, il y a beaucoup d'autres marqueurs qui sont beaucoup plus importants, mais que je ne mets pas encore tout à fait en avant dès le premier coup. Dans la page de vente, je le mets en avant, mais c'est plus aguicheur de parler directement de kilos, malheureusement. J'ai ravalé ma fierté depuis quelques mois en disant il faut vraiment que je leur donne ce qu'ils veulent, parce que c'est vraiment ce qu'ils parlent. C'est pareil, en fait, j'avais cette fierté, mais en même temps, je me disais, je parlais avec d'autres personnes qui étaient en soi-disant experts dans le fitness et qui disaient non, mais il ne faut pas dire perdre du poids parce que ce n'est pas ça, c'est perdre de la masse grasse, etc. En fait, il faut que tu parles comme ton audience. Donc, du coup, évidemment, tout le monde dit je veux perdre du poids, ils ne disent pas je veux perdre de la masse corporelle, graisseuse, voilà, bref, un truc qui est chiant. Donc, du coup, je me suis un peu dit bon, arrête, tu t'es assez entêté là-dessus, vas-y, essaie de tenter comme ça. Et effectivement, ça a beaucoup plus répondu que de dire les choses comme elles sont vraiment. Mais finalement, en fait, c'est pas. Tu vois, en fait, on a peur de se dire ça va être une déception de leur part parce que c'est pas. Et on va pas parler que de perte de poids, mais finalement, il y a beaucoup plus que ça, donc c'est mieux pour elles.
Je trouve ça super important de souligner cette histoire de marqueur, parce que c'est vrai que donc toi, dans la question de l'alimentation, ils vont peut-être être un peu focus sur le marqueur du poids, alors que comme tu l'as dit, il y a plein d'autres choses, il peut y avoir le sommeil, il peut y avoir l'énergie au quotidien, bon, l'arrêt des médicaments, pourquoi pas. Et c'est vrai que de s'approprier en fait quels sont les marqueurs qui sont importants pour moi, de la même manière, moi je peux l'avoir au yoga, tu vois, tu as toujours un tiers à la moitié des nouveaux élèves qui débarquent au yoga parce qu'ils ont mal au dos, parce qu'ils sont stressés ou parce que leur médecin leur a dit de venir au yoga. Et c'est pas des mauvaises raisons pour venir au yoga, mais c'est plus de se poser la question et d'intérioriser en disant en fait c'est quoi pour moi les marqueurs de bien-être qui sont importants pour moi. Peut-être que moi le poids je m'en fous, mais ce qui m'intéresse ouais c'est mon sommeil ou je ne sais quoi. Et là-dessus je trouve que, je sais pas quelle est ton approche, mais je trouve que la diététique chinoise a quand même quelque chose de formidable là-dessus, par la théorie des cinq éléments, des cinq organes, etc., pour adapter vraiment l'alimentation à ces marqueurs-là. Parce que si moi j'ai un profil qui est hyper inflammatoire, avec un foie qui est très fort, entre guillemets, et qu'on me fait manger du curcuma, parce que c'est à la mode de mettre du curcuma partout, ça va pas le faire, tu vois, parce que le foie il va péter une quille, ça va être trop inflammatoire, enfin ça va être trop chaud entre guillemets pour lui. Et ça, j'imagine que ça doit pas être simple quand même pour les gens quand tu t'y connais pas, d'arriver à s'approprier ces marqueurs-là. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, là, oui, je pense qu'on est dans le technique, non, vraiment dans le technique, là, quand tu parles de foie, de choses comme ça, avec le curcuma et tout. Moi, je pense que je rentre pas dans ce détail autant que ça. C'est plus en question d'alimentation globale, mais évidemment, il y a d'autres marqueurs où je veux être, enfin, je veux me sentir mieux dans ma peau, je veux me sentir, enfin, je veux rentrer, je sais pas, dans telle ou telle robe. Après, je veux aussi mieux dormir, je veux. Il y a vraiment d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et en ligne de compte, ça se dit pas, je crois, mais je sais
Si,
plus
ça se
comment.
dit. Ça peut
Ligne de
rentrer en
compte?
ligne. Non, je crois que
Ah.
ça rentre en ligne de mire ou ça rentre en compte, je crois.
Ouais, ça rentre en tout cas. Ça
Voilà.
rentre. Mais effectivement, en fait, chacun a ses propres marqueurs et c'est important de les identifier. Et même quand je fais du coaching de groupe, hein, chacun a ses marqueurs et chacun a ses progrès qui doivent prendre en compte. Et j'impose pas de dire il faut qu'on soit focalisé uniquement sur ta perte de poids, parce que perdre du poids c'est bien, mais il y a souvent une raison profonde derrière. C'est ça. Pourquoi tu veux perdre du poids? Est-ce que tu veux perdre du poids parce que tu sens que t'es pas assez actif au quotidien et que ça t'emmerde de pas pouvoir jouer avec tes enfants, ou que tu peux pas aller en randonnée avec tes enfants, ou est-ce que c'est parce que t'as envie de plaire à nouveau? Toujours une raison profonde. Au début, comme tu disais, enfin, il y a des raisons qui sont un peu plus superficielles, entre guillemets, là, avec le yoga, il y a peut-être un mal de dos, des choses comme ça, mais il y a toujours une raison profonde à ce mal de dos, à tout ça, et c'est important de les connaître et d'aller plus profond pour que ça dure, en fait, pour avoir un changement durable et savoir quels sont tes marqueurs à changer et à améliorer, quoi.
Comment tu te positionnes, toi, sur la question de... Enfin, c'est mon côté psy positif, forcément, qui se réveille, mais d'acceptation de soi. Parce que, tu vois, quand t'as quelqu'un qui vient te voir et qui dit « Je veux perdre 2 ou 3 kilos », j'enlève, évidemment, les cas qui ont vraiment besoin de perdre du poids pour des raisons de santé, etc. Personne qui dit « J'ai besoin de perdre 2 ou 3 kilos pour des raisons esthétiques ». Sans juger si la personne a tort ou raison, c'est pas le débat. Mais en ce moment, il y a quand même une mouvance, tu sais, de body positive, d'acceptation, etc. Et comment toi tu te positionnes dans cette idée de, bah, est-ce que je dois accompagner la personne ou est-ce que finalement mon travail, c'est peut-être de lui dire, écoute, cocotte, t'as que 3 kilos à perdre, accepte-toi comme tu es, ça va pas changer ta vie d'avoir 2 kilos en plus ou en moins, quoi.
Très bonne question.
Je pose
J'ai
des
pas
bonnes
eu le cas
questions aujourd'hui, je
encore.
suis contente.
J'ai pas eu le cas encore, mais c'est vrai que tout à l'heure, si, j'ai eu un semi-cas où j'ai eu un prospect au téléphone, et ça revenait vraiment souvent le fait d'être accepté justement plutôt par les autres. Il voulait perdre du poids et à chaque fois c'était pour le regard des autres. Mais qu'est-ce que ça changera dans ta vie? Bah, je pourrais aller à la piscine et qu'on me regarde mieux et tout ça. J'ai dit, mais pourquoi c'est autant important pour toi de le regard des autres? Et dans ce cas-là, en fait, je ne sais pas si j'écarterais tout de suite la personne, elle lui dit non, mais il faut que tu t'acceptes vraiment. Mais peut-être qu'elle, en fait, elle s'en rendra compte au bout de quelques semaines ou quelques mois de coaching. Parce que c'est peut-être pas évident, en fait, de savoir entre l'acceptation de soi qu'elle doit faire ou les 2-3 petits kilos qu'elle doit perdre parce qu'elle en a vraiment envie. Là, je pense que ça m'est plus ou moins arrivé là, avec les clientes que j'ai eues sur le dernier coaching de groupe. Où finalement elle perdait pas de kilos presque. Moi je m'inquiétais un petit peu, je me suis dit bon, elle est quand même venue pour ça. Elle m'a dit non, mais moi je m'en fous, je suis super satisfaite de ton coaching, ça m'apprend beaucoup de choses sur moi, etc. Et finalement, tu vois, elle est plus dans l'acceptation sans vraiment le savoir. Elle s'acceptait, elle dit ouais, finalement je suis très bien comme ça, mais au moins j'améliore mon alimentation parce que. Bah dans tous les cas, dans le coaching, on améliore son alimentation petit à petit. Et donc, ça lui fait du bien. Et elle a mis de côté un peu sa perte de poids parce que justement, elle est en train de s'accepter. Donc, je pense que je commencerai le coaching et je pense qu'en posant les questions, en allant de plus en plus en profondeur, je pense qu'on arrive elle arrive à se faire la réflexion par elle-même et de se dire bah, finalement, en fait, j'ai plus finalement envie de. Il y a beaucoup de finalement. J'ai plus envie de perdre du poids parce que je suis très bien comme ça. Et moi, je force pas du tout à la perte de poids. Tu vois, c'est vrai qu'on voit de plus en plus, vous voyez, sur Instagram, d'alimentation intuitive, de choses comme ça, où on pousse les gens à être soi-même, à s'accepter. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais après, je pense que. Faut pas aussi tomber dans l'excès inverse et de se dire ça sert à rien de perdre du poids, qu'est-ce que tu fais avec ça, moi je suis très bien comme je suis. Et parfois, les personnes qui disent ça, c'est un peu les plus frustrées. Si on a une frustration interne, je pense qu'il faut essayer de la travailler. Alors, soit c'est par l'acceptation de soi, soit en perdant un petit peu de poids et finalement on commence à mieux s'accepter. Mais effectivement, en fait, moi je suis pas pour que toutes les personnes soient taille mannequin et tout ça, enfin ça m'intéresse pas et moi c'est pas non plus mon but premier. Je suis pas déjà je suis pas coach sportif, je vais te dire, mais je suis pas le mec bodybuildé, ça m'intéresse pas du tout. Si j'ai un peu de graisse sur moi, c'est pas grave. Ce qui m'importe, c'est de bien bouger, d'être bien dans ma peau et de manger correctement. Donc, il y a aussi cette acceptation à faire sur le fait que je serai pas le plus beau sur la plage, quoi. Effectivement, je pense que ça arrive, ça gagne, ça fait son petit bout de chemin, tout ça, et il faut trouver, en fait, entre s'accepter et puis atteindre ses objectifs. C'est pas très clair, mais bon, je le dis quand même.
Très bien. Eh bien, je te propose qu'on parle un peu de ton bien-être au travail en tant qu'entrepreneur. Et justement, puisqu'on t'as beaucoup donné de conseils, parlé pour les autres, etc., mais... Toi, ça ressemble à quoi ton alimentation et ta pratique sportive au milieu de ton agenda d'entrepreneur ?
Je sais pas si je l'ai dit avant, mais il y a une règle que j'aime beaucoup, c'est 80%, c'est le nouveau 100%. Ça, il n'y a pas un podcast sans que je l'ai dit, donc je suis obligé de le redire. En gros, en fait, ça veut dire que si tu atteins 80% de ton objectif, ça atteint 100% de ton objectif. En fait, c'est un peu une manière de déculpabiliser. C'est quelque chose qui peut s'appliquer à tout. Ça peut être aussi bien au sport, à l'alimentation, à ton business. Ça permet un peu de déculpabiliser. Et puis même 50%, c'est toujours mieux que 0%. Et donc, moi, je travaille un peu beaucoup avec cette règle-là et j'essaie d'avoir un minimum d'activité sportive, dire par jour, de mouvement. Je ne sais pas si tu es familière avec la notion de MED, minimum effective dose. En fait, c'est quelque chose qui a été appliqué à l'activité physique et qui a été popularisé par Tim Ferriss dans son livre The 4-Hour Body, où en fait, en gros, il dit que je sais pas, pour bouillir de l'eau, tu as besoin qu'elle soit à 100 degrés, tu n'as pas besoin qu'elle soit à 150 degrés, parce que ça ne change rien, elle boue. Et en fait, c'est la même chose avec le sport. C'est-à-dire que si tu fais 35 minutes de sport, mais que tu les fais bien, bah c'est bien, même peut-être mieux que de faire 45 minutes et d'être cramé ou faire une heure et demie. Tu vois, tu as une notion un peu de rendement décroissant au bout d'un certain temps où t'en fais trop et finalement, bah, t'es cramé et tu fais moins de bien. Donc moi, j'ai certaines activités que j'ai identifiées qui sont efficaces pour moi et surtout quand je suis... quand j'ai beaucoup de choses à faire, je pioche dedans et ça peut être un 7 minute workout, ça peut être du Tabata, ça peut être un petit peu de yoga. Enfin, j'essaie en fait d'en mettre un peu dans toute ma journée. Je te parlais juste après d'aller être être allé aux toilettes, de faire des pompes. Ça peut être aussi toutes les heures ou toutes les heures et demie, je vais essayer de faire, je sais pas, des pompes, des squats, des burpees, des choses comme ça, un peu tout au long de ma journée, si je sais que j'ai une semaine assez débordée, assez busy. Ça va être plutôt ça, en fait, que je vais faire tout au long de la journée, mais sinon, en général, j'en fais... Je compte pas, en fait. 3-4 fois peut-être par semaine, 4-5 fois, ça dépend des exercices chez moi, au poids de corps ou avec des autres outils, des élastiques ou des choses qui sont un peu plus bizarres peut-être, ce qu'on appelle des élastiques qui te permettent de faire comme un garrot, blood flow restriction, donc ça te permet de restreindre en fait ton afflux sanguin et de transmettre à ton cerveau que tu es en train de soulever une charge lourde ou un truc comme ça, donc t'as une plus grosse croissance musculaire. Donc j'essaie en fait d'optimiser un peu mes petits exercices quand je suis vraiment busy. Quand je vais faire, j'ai un petit rituel le midi après manger, je vais faire ma petite marche digestive comme un papy. Des fois, j'essaie d'avoir des kettlebells avec moi, tu vois. J'essaie de. Bon, les gens me prenaient un peu pour un fou, mais je prends des kettlebells dans un sac. J'essaie d'optimiser un peu tout ça pour que j'ai un minimum de résistance training, de mouvement dans ma journée. Et sinon, quand j'ai des semaines plus light, je fais plus d'entraînement un peu plus long en soirée. Mais je crois que c'est à peu près tout. Voilà, je fais assez attention à bouger régulièrement. Bon, là, je bouge pas, je suis assis devant mon ordinateur, mais bon. Mais voilà, pour le sport, c'est à peu près ça. Dans la journée, il n'y a pas de choses très définies parce que je pense qu'on a besoin de définir quelque chose tout au début d'une activité, tout au début quand on ne connaît pas bien ce qu'on fait. C'est important de tenir quelque chose et de se dire je vais faire telle ou telle chose aujourd'hui. Moi, je suis arrivé à un stade où je me fais confiance. En fait, si je loupe un jour ou deux, c'est pas grave. Je sais que je vais faire au moins quelque chose parce que ça me fait du bien de bouger. Et donc, j'ai plus de liberté maintenant dans ma pratique sportive. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être au poids de corps. Je vais plus trop en salle de sport. Mais je trouve toujours quelque chose à faire parce que j'aime en fait ce que je fais. Moi, ça m'amuse vraiment de faire du sport. Le matin, je fais quelques positions de yoga. Le soir, j'ai aussi des. Comment on appelle ça? Des steel mace, c'est des masses. Une masse, il faut visualiser une masse avec une boule au bout. Et je m'amuse avec ça. Bon, c'est des choses encore un peu bizarres, mais bon, ça arrivera un jour en France. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment prendre du plaisir. Moi, je prends vraiment du plaisir à bouger et à faire des choses chorégraphiées avec des poids. Je prends du plaisir à faire ça, donc j'en fais régulièrement. Et pour l'alimentation, déjà, la première chose, c'est que je fais du jeûne intermittent, le protocole plutôt 16-8, donc 16 heures de jeûne et 8 heures de feeding window d'alimentation. Ça, je crois que ça fait 2 ans maintenant que je le fais. Ça m'aide vachement parce que je suis malgré tout sédentaire, je suis pas celui qui bouge le plus, même si j'aimerais plus bouger, mais bon, on a des business qui sont en ligne, qui nous forcent, enfin, en tout cas qui me forcent moi à être sur mon ordinateur, même si j'essaie d'alterner les positions, j'aimerais plus bouger, donc je trouve que ça permet de moins manger et c'est quelque chose qui a beaucoup d'avantages aussi, enfin pour tout un tas de choses, le jeûne intermittent, ça c'est un peu intégré en moi. Qu'est-ce que je dis? Je mange beaucoup de légumes. Après, qu'est-ce que je pourrais dire sur mon alimentation? Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de le soir je mange léger, etc. Non, ça peut être le midi comme le soir. Il n'y a pas de glucides, non, je mange plutôt. Au départ, j'avais plus tendance à dire que j'étais flexitarien, de moins en moins de viande. Enfin, je le suis toujours un peu, mais sans être trop végétarien. Je fais attention à mes apports en protéines, glucides, etc. Mais je les compte pas. Je compte pas mes calories. Je suis pas un maniaque des calories. Ça va vraiment comme ça vient, quoi. Je sais pas. Qu'est-ce que t'as des questions sur l'alimentation, peut-être?
Non, 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 tu nous as dit beaucoup de trucs. Je pense que ce qui va intéresser enfin, je parle à leur place, mais ce qui peut intéresser les entrepreneurs qui nous écoutent, outre les conseils que t'as déjà donnés, c'est voilà d'avoir la vision, notamment la tienne puisque c'est ton métier, mais de comment tu articules ton alimentation au quotidien. Donc ouais, tu nous as dit, jeûne intermittent, donc du coup tu fais quoi? Tu petit-déjeunes pas puisque t'as dit que tu mangeais
ouais.
le soir? Ok.
Ouais, je petit-déjeune pas, et après, en fait, ça dépend si j'ai beaucoup de temps. En fait, peut-être pour les entrepreneurs, ils sont en train de se dire, bon, ça prend du temps de faire attention à son alimentation, mais moi aussi, j'ai la flemme parfois de faire à manger, donc je fais des choses vraiment très, très rapidement. Soit, quand je cuisine, par exemple, des légumes, je vais les cuisiner en plus grande quantité, ça va me durer 2-3 jours. Après, ça peut être pareil pour les glucides ou de la viande. Et du coup, en fait, j'essaie de composer. Moi, ce que j'adore vraiment, c'est les Buddha Bowls. Je sais pas si tu connais, mais moi, je fais des genres de Buddha Bowls avec, qu'est-ce que je fais? Des pousses d'épinards, ça peut être du tofu ou quelque chose, une protéine avec moi j'aime bien les brocolis, des brocolis, et je mets une petite sauce tahini dessus, je sais pas si tu connais, crème de sésame avec du citron, et un peu de cumin, enfin, des graines dessus. Ça, c'est un peu mon repas que j'adore du midi, si je dois dire quelque chose, ou quand j'ai vraiment un peu la flemme, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, si c'est déjà cuit, en 5 minutes, 10 minutes, c'est fait, quoi. Donc, il y a des petites choses, en fait, à optimiser pour que ça soit plus simple, et que ça soit rapide, et finalement, en une dizaine de minutes, enfin, j'ai fait mon déjeuner, je l'ai fait, je ne l'ai pas mangé, mais je l'ai fait, et c'est très simple à faire, quoi.
Ah, et ça, c'est important, je te viens de le souligner, de prendre le temps de manger. On entend souvent le fait de dépasser au moins 20 minutes pour que le cerveau comprenne que t'es en train de manger, etc. Mais je sais pas ce que t'en penses, hein, mais moi, je serais adepte de leur conseiller plus de 20 minutes pour avoir au moins un moment dans ta journée où t'es concentré à ton repas, peut-être aux gens avec lesquels tu le partages, et de s'octroyer d'avoir vraiment des breaks dans la journée, quoi.
Ouais, carrément. C'est vraiment on va dire presque un des piliers de mon coaching, de prendre du temps pour manger, et de manger aussi à satiété, parce que souvent, en fait, on mange jusqu'à être plein, être rempli. Quand on prend son temps, on va arriver à satiété, enfin, plus lentement, mais au moins, on va le savoir, tu vois, comme tu disais, prendre une vingtaine de minutes pour aussi apprécier le temps et pas être tout le temps dans le rush et, essayer de consommer en toute conscience, en fait, en pleine conscience. Et on a tendance à être devant son ordinateur, peut-être, et de manger son sandwich, ça c'est la caricature, mais de manger rapidement dans son ordinateur. Et ça, c'est mauvais aussi bien pour la digestion que pour, enfin, tout un tas d'autres choses. Donc après, on va avoir faim plus tôt, on va grignoter. Donc il faut vraiment essayer de prendre une vingtaine de minutes le midi, de se forcer à savoir ce qu'on est en train de manger, voir visuellement ce qu'on mange, essayer de prendre du plaisir à ce qu'on mange et prendre son temps. Ce que je disais, oui, c'est important pour... je pense que mon coaching, c'est pareil, c'est au-delà du quoi manger, il y a surtout aussi comment on mange, donc comme tu disais, prendre du temps, et aussi pourquoi on mange, surtout la partie sur les émotions, parce que c'est souvent présent chez un public féminin, le côté émotionnel encore plus. Chez les hommes, c'est vrai aussi, mais c'est encore plus le cas chez les femmes. Et ça, c'est hyper important de comprendre pourquoi on mange, pour essayer de changer durablement. Parce que, encore une fois, si on ne comprend pas pourquoi on grignote, est-ce que c'est parce que je suis seul, est-ce que c'est parce que je m'ennuie, enfin, tout un tas d'autres choses, d'émotions qui sont derrière, bah, on ne changera pas sur le long terme. Donc, la notion de pourquoi et de comment sont très importantes, hein, pour avoir une relation saine avec la nourriture.
Ouais, j'allais parler de ça, de le fait de manger ses émotions. Je vois bien, parce que souvent le midi, je mange au coworking, donc il y a plein d'entrepreneurs. Et généralement, on s'arrête de manger entre midi et midi et demi. Ça fait 3 à 4 heures qu'on est en train de bosser. T'as accumulé déjà tout le stress, les soucis, les contrariétés du matin, la gestion, la charge mentale, machin. T'arrives à table à midi et demi et tu te jettes sur la bouffe, mais je dis ça, mais moi, si je fais pas gaffe, j'ai tendance à faire ça aussi, tu vois. Et tu te jettes sur la bouffe, et au final, tu te rends même pas compte que 7-8 minutes après, t'as déjà dégommé tout ton, tout ton repas, et en fait, tu viens vraiment te jeter là-dessus, parce qu'effectivement, t'es stressé, t'es en speed, donc tu manges en speed, tu bouffes tes émotions au passage, quoi.
Ouais, mais ouais, t'as raison, et t'as raison aussi de le souligner que... Enfin, ça nous arrive aussi. Enfin, ça m'arrive aussi à moi. Hein. J'ai beau enseigner là-dessus, moi, ça m'arrive aussi. Mais maintenant, de plus en plus, j'arrive à savoir quelles sont les émotions qui me font manger ou des choses comme ça. Et parfois, même si tu le sais, bah, t'as quand même envie de le faire.
C'est clair.
Quand même. Mais tu le fais en toute conscience. Tu sais que c'est à cause de ça, que t'as tel déclencheur qui t'a fait ça. Et ça, c'est important de savoir les déclencheurs qui te font manger telle ou telle chose, pour, si tu veux au moins changer. Parce que sinon, t'es pas conscient de ce que tu fais, tu manges sans comprendre et tu te retrouves à dire, mais j'ai pris du poids, mais je comprends pas. Mais moi, de toute façon, je les note pas. Hein, y a pas pardon. Donc, toujours se poser les bonnes questions pour savoir pourquoi on mange, qu'est-ce qui s'est passé avant, après, avec qui j'étais, où est-ce que j'étais. Enfin, y a toujours une dimension aussi sociale, tout ce qui peut nous entourer qui est très important à connaître parce que souvent on n'y prête pas attention. Et quand on est avec tel ou tel ami, on a tendance à boire un petit spritz et finalement ce spritz ça me fait prendre une planche, à piquer, etc. Et là c'est les dominos et puis voilà. C'est pas grave, je dis pas que c'est grave de faire ça, peu importe, c'est très bien. Si ça te fait plaisir, c'est très bien. Mais au moins de savoir identifier tout ce qui donne une réaction en chaîne et ce qui peut causer d'éventuels problèmes pour toi. Si tu es OK avec le fait de boire des Prosecco, prendre une planche, etc., ça va très bien. Ça peut être dans tes 20% aussi. Donc tout ça, en fait, pour comprendre ce qu'on fait et accepter, encore une fois, la notion d'acceptation de ce qu'on fait. Souvent, ce que je dis à mes clients, c'est ils veulent... on va dire j'ai mérité quelque chose. Il y a souvent cette notion de mériter parce que j'ai fait une grosse journée, j'ai mérité cette glace et tout ça. C'est difficile encore une fois à faire, mais je pense qu'on n'a rien à mériter. En fait, on fait un choix parce qu'on en a envie. Et il faut arrêter de se dire j'ai mérité telle ou telle chose parce que c'est une relation qui est plutôt malsaine en se disant tiens, j'ai fait une bonne journée, j'ai mérité de manger telle ou telle chose. Et finalement, tous ces petits choix qu'on fait en disant j'ai mérité ça, on va commencer à l'associer à d'autres choses et ça va devenir un peu pervers. Et donc il faut juste se dire j'ai mangé cette glace parce que j'en avais envie et c'est tout. Et ça, accepter ses choix. Aussi, après, si tu ne l'acceptes pas, tu le changes, mais que ça soit vraiment quelque chose parce que tu as envie de le faire, pas parce que tu l'as mérité.
Deux petites questions avant ma traditionnelle question de fin. Quelles sont les plus grosses difficultés que tu as rencontrées depuis que tu es à ton compte ?
Et bien là, je pense que on en a un petit peu discuté, c'était avec les entrepreneurs. Je pense que quand j'ai voulu me focaliser sur les entrepreneurs et que j'essayais un peu de vendre ce que je voulais. En fait, je voulais vendre les bonnes habitudes, des choses comme ça, et je prêtais pas assez attention à ce qu'ils voulaient entendre. Et donc, je me suis un peu entêté là-dessus, et ça marchait pas très bien. Je pense que ça, c'est une des grosses difficultés. Bon, je suis assez têtu, mais parce que en fait, j'étais un peu frustré de me dire, mais c'est ça la bonne approche, c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais finalement, en fait, les gens s'en foutent du moment que tu leur donnes ce qu'ils veulent, que tu leur dis ce qu'ils veulent entendre. Bah, c'est ça qui fonctionne.
Et alors, qu'est-ce qu'ils voulaient entendre, les entrepreneurs ?
Ah, les entrepreneurs, je ne sais pas encore vraiment ce qu'ils veulent entendre.
C'est toujours pas
compris. Ce qu'ils veulent entendre, c'est je vais perdre du poids et gagner de l'argent.
Un kilo ou 1 000 euros. Okay.
Voilà, ça serait plutôt comme ça. Mais l'association entre les deux, je pense qu'elle ne se fait pas intuitivement et pas assez directement.
Ok. Bon, alors à l'inverse, quelles sont tes plus grandes réussites ?
Et puis après, si j'ai encore un petit truc, peut-être sur les difficultés, c'est ça rejoint l'autre, c'est pas réussir à aider plus de personnes. On est limité et finalement, j'aimerais bien en aider plus ou faire d'autres choses parce qu'il y a des personnes que je refuse ou qui ne viennent pas dans mon coaching parce que c'est peut-être trop cher ou parce que c'est pas le bon moment et tout ça. Et ça, ça fait un peu chier parfois parce que tu sais que tu as vraiment envie d'aider cette personne. Mais bon, tu peux pas le faire non plus gratuitement, sinon tu ne gagnes pas ta vie. Mmh. Et ça, c'est un peu parfois une frustration parce que tu sens qu'il y a, je pense dans ton métier comme dans le mien, on a un impact sur la personne, sur la personnalité, sur quelque chose de personnel. Et donc, tu as de l'empathie, en fait, pour les gens. Donc, tu te dis, j'ai envie d'aider cette personne. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas à le faire ensemble parce que je sais qu'elle va galérer encore. J'espère que j'aurai tort et qu'elle va y arriver toute seule, mais voilà. Donc ça, c'est un peu une petite frustration quelquefois, mais je pense que toutes les personnes qui sont en coaching le ressentent aussi. Après, mes plus grandes réussites, bah, c'est lié à ça aussi, c'est plutôt de voir les résultats de mes clients et de mes clientes. C'est dans mon métier avant, enfin, si mon métier avant, j'ai fait commercial, j'ai été aussi le responsable dans un service relation client, blablabla. Tu n'avais aucun impact vraiment visible. Tu avais des gestions de projet à 1 ou 2 ans, tu changeais un bouton sur Salesforce, tu étais content, tu as fait ça pendant. Un truc qui était plutôt insignifiant pour moi, peut-être que enfin, des gens qui se retrouvent là-dedans, c'est bien s'ils aiment bien, mais là, tu vois, c'est des résultats qui sont concrets, qui sont. Enfin, quand j'entends des clients qui me disent j'ai arrêté l'antidépresseur, c'est grâce à toi, enfin, c'est des choses qui sont très valorisantes pour toi, et tu te dis c'est top, enfin, j'ai réussi à avoir un impact sur cette personne, et c'est ça qui te donne envie de continuer d'en coacher plus, quoi.
Mais en tout cas, pour ce que tu disais sur la frustration de ne pas pouvoir aider autant de personnes que tu veux, effectivement, je pense que c'est une problématique de beaucoup de professionnels, secteur bien-être, santé, thérapeutique, etc. J'en parlais aussi la dernière fois avec des collègues profs de yoga. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut toi aussi que tu gagnes ta vie et que, a priori, si tu fais ce genre de métier, c'est que tu as envie de pouvoir aider du monde. Donc, effectivement, c'est un challenge du quotidien.
Et puis en plus, au-delà de ça, si tu fais les choses gratuitement, tu as moins d'engagement. En fait, parce que quand je débutais, j'essayais de faire des coachings gratuits pour voir. La personne, elle va être motivée pendant un mois, et puis finalement, salut, et puis tu n'as pas trop de nouvelles, parce que, en fait, c'est pas, y a pas assez d'engagement. Donc
Ouais, c'est clair.
si tu t'engages pas, tu n'auras pas autant d'impact sur la personne, donc c'est compliqué, quoi.
Et alors la traditionnelle question de fin, quels sont tes conseils pour entreprendre heureux?
Elle est compliquée cette question. J'ai un peu réfléchi, mais je pense que c'est difficile d'avoir. Enfin, on parle toujours d'un équilibre vie pro, vie perso. Et j'aime bien en fait ce que dit James Clear là-dessus, qui parle enfin, qui visualise ça comme si tu avais une gazinière à 4 feux. Okay? Donc tu as 4 feux. Tu as un feu, c'est la famille, l'autre, c'est les amis, l'autre, c'est ta santé, et l'autre, le dernier, c'est le travail. Et en fait, il dit que tu ne peux pas avoir les 4 feux à fond. Donc, si tu veux commencer à être à fond dans ton travail, tu vas être obligé de négliger ta famille, tes amis et sûrement ta santé. Ou alors, tu peux décider d'avoir les feux à, enfin, feu, feu moyen, les 4 feux à feu moyen, et d'être un petit peu partout. Bon, c'est compliqué et je trouve qu'il faut arriver à trouver cet équilibre, à mettre. Évidemment, tu as des mois où tu vas être plus sur ton travail. Et tu vois, ça, j'ai plus changé dans le sens où j'ai accepté le fait de me dire, bah, il y a des fois où je vais faire moins d'exercices parce que je vais être plus sur mon travail. Après, il y a d'autres fois où je vais être plus avec mes amis, etc. Donc, il faut arriver à trouver son équilibre et savoir, en fait, accepter de se dire, bah, je peux pas tout faire en même temps. Parce que ça, c'est vraiment une frustration aussi chez les entrepreneurs, souvent. On est dans notre travail, on va être moins dans la santé et encore moins dans les amis, quoi. Les amis, souvent, on les voit un peu moins. On a des amis qui sont entrepreneurs. Donc, pour entreprendre heureux, il faut arriver à trouver ce petit équilibre, bouger régulièrement, parce que mine de rien, ça fait aussi la diff. Quand on bouge, même si on n'a pas la motivation, tu vois, l'action crée la motivation. Souvent, on a tendance à se dire, mais moi, de toute façon, je suis pas motivé, donc ça sert à rien. La motivation et la volonté, c'est des très mauvaises stratégies de long terme. C'est des choses qui sont utiles au début, quand tu dois te lancer, mais derrière, il faut que ça laisse place un peu aux habitudes, à plus d'autonomie. Et du coup, il faut arriver à bouger régulièrement, tout en se faisant plaisir, manger de plus en plus de bonne qualité pour justement avoir plus d'énergie et entreprendre heureux.
Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup Brice pour tous tes conseils, toutes tes réponses. Je suis ravie de t'avoir reçu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on conclue cet épisode?
Merci à toi en tout cas, c'était un réel plaisir de partager ce que j'avais à dire et d'essayer de donner des conseils, hein. J'espère qu'il y en a qui en tireront de la valeur. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Non, bah, garder en tête, 80% c'est le nouveau 100% et savoir en fait qu'il n'y a jamais de bon moment, quoi, passer à l'action rapidement, mais tout en réfléchissant aussi, il ne faut pas non plus y aller tête baissée. Mais passer à l'action pour justement faire s'améliorer, peu importe que ce soit sur l'alimentation, le mouvement, mais être toujours dans cette logique de progression plutôt que perfection.
Ok, très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Brice, d'avoir répondu à mes questions, et puis à très bientôt.
Merci à toi.
Épisode avec Brice. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu as pu obtenir des réponses, des conseils et des bonnes pratiques à mettre en place d'ores et déjà dans ton quotidien. Tu peux retrouver Brice sur son site, je te mets le lien dans la barre de description. Et évidemment, nous, on se retrouve sur le site de bientaboite.fr, sur les réseaux sociaux, enfin bref, à peu près où tu veux ou dans les autres épisodes du podcast. Et si tu as besoin, à la fin de ce podcast, que tu te dis qu'il est vraiment temps de travailler sur ton bien-être, je te retrouve dans les coachings de Bien dans ta boîte. Toutes les infos sont sur le site dans la rubrique accompagnement, soit avec du coaching individualisé si tu as besoin de vraiment travailler le mindset, soit plutôt sur du coaching holistique si tu as besoin d'une approche bien-être plus globale. Et quoi qu'il en soit, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, je voudrais conclure là-dessus parce que j'étais 100% d'accord avec Brice sur le fait que quand on est entrepreneur, on est souvent focus sur la question de notre business en fait, et sur le fait de le lancer, et puis une fois qu'il est lancé, de le rendre rentable, et puis une fois qu'il est rentable, de le mettre en croissance, etc. Et à mon avis, c'est le fondement de bien dans ta boîte, donc je peux pas dire autre chose. Ton bien-être et ta santé, ça n'est pas secondaire. Ça n'est pas secondaire, et c'est possible que ça ne soit pas secondaire. Parce que je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui se disent « Oui, bien sûr, c'est pas secondaire, mais enfin bon, dans les faits, on fait ce qu'on peut. » Bien sûr, on fait ce qu'on peut. Clairement, il y a des moments où, moi la première, où je mange pas super bien, où je vais pas au sport, ou je ne sais quoi. Mais je pense que, en tout cas, si c'est important pour toi et que c'est tes valeurs, je te garantis que c'est faisable d'avoir un business qui est fructueux, qui est rentable, et dans lequel tu es heureux, heureuse, épanouie et en bonne santé. Donc, si ça t'intéresse, on se retrouve sur biendantaboite.fr. D'une manière ou d'une autre, il y en a pour tout le monde. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes, et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.